Engels et la jeunesse du marxisme par Maximilien Rubel. Le marxisme n'est pas le produit authentique de l'enseignement de Karl Marx, mais le fruit des efforts prosélytiques et de l'activité théorique de Friedrich Engels, l'ami et le compagnon de lutte. Si tant est que le concept de marxisme ait jamais recouvert un sens rationnel, ce n'est pas Marx qui en porte la responsabilité, mais Engels. Et si, aujourd'hui, comme hier, la querelle de Marx est à l'ordre du jour, elle se rapporte principalement à des problèmes auxquels Engels ne s'est guère intéressé ou qui ont échappé totalement à son attention. Sans que la compétence théorique d'Engels soit entièrement mise en question, il est légitime de se demander dans quelle mesure il pourrait compter dans des controverses concernant des écrits et donc des idées de Marx qui, ignorées ou négligées par son héritier, se situent aujourd'hui au cœur des interrogations suscitées par la crise où se débat l'humanité du XXe siècle. En d'autres termes, quelles sont les limites de l'autorité intellectuelle d'Engels, exécuteur incontesté du testament spirituel du penseur auquel on prétend encore faire appel pour élucider les problèmes matériels et moraux de notre temps? Toute investigation relative à la nature et à la portée des rapports de Marx et d'Engels est d'avance vouée à l'échec aussi longtemps qu'elle ne s'attaque pas à la légende de la fondation et ne choisit pas pour point de départ méthodique l'aporie de la notion de marxisme. À savoir le fait, confirmé par près de 100 années d'emploi abusif de ce terme, qu'il s'agit d'un phénomène de flagrante mystification idéologique. Dégradé au point de n'être plus qu'un vocable vide de sens et, pour cette raison même, se prêtant aux utilisations les moins avouables, l'idéologie marxiste fut, dès l'origine, marquée du stigmate de l'obscurantisme. Il fut donné à Marx de percevoir, dans les dernières années de sa vie, les signes prémonitoires de cet outrage posthume, alors que sa réputation de penseur révolutionnaire commençait à briser le mur du silence qui entourait son œuvre. Ce qui semble n'avoir été qu'une boutade ou l'expression d'une âpre ironie s'est révélé peu à peu avertissement péremptoire et amère protestation. Et c'est un des mérites d'Engels de l'avoir transmis aux générations de disciples qui institueront le culte et la superstition du nom de l'ami défunt. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Engels raconte que cette déclaration fut faite à Marx à propos du marxisme qui sévissait vers 1879-1880 parmi certains Français, mais que ce blâme s'appliquait également à un groupe d'intellectuels et d'étudiants au sein du parti allemand. Eux et toute la presse de l'opposition afficher un marxisme convulsivement défiguré. Voir la lettre d'Engels à la rédaction du Social-Démocrate, publiée le 13 septembre 1890. La boutade, combien lourde de pressentiments, de Marx, fut rapportée par Engels chaque fois que l'occasion s'en présentait. Voir ses lettres à Bernstein, du 3 septembre 1882, à Conrad Schmidt, du 5 août 1890, à Paul Lafargue, du 27 août 1890. Le révolutionnaire russe, German Alexandrovitch Lopatine, qui rencontra Engels en septembre 1883, s'entretint avec lui des perspectives révolutionnaires en Russie. Le récit qu'il adressa en septembre 1883 à un membre de la Narodnaya Volia contient ce passage. « Je vous ai dit un jour, vous en souvenez-vous, que Marx lui-même n'a jamais été marxiste. » Engels raconta que lors de la lutte de Brousse, Malon et si, contre les autres, Marx avait dit un jour, en riant, « Je ne puis dire qu'une chose, c'est que je ne suis pas marxiste. » Dès 1869, Marx avait conseillé à une délégation syndicale de ne jamais s'enchaîner à des individus, mais d'avoir toujours présente à l'esprit la cause et de ne nous faire notre jugement que d'après elle. Que vous importe Liebknecht, Schweitzer, que vous importe ma personne, rien que la cause. Telle est la vérité. Ce n'est pourtant pas sur le ton de la plaisanterie que Marx, lors d'un voyage en France, communiqua à son ami son impression sur les querelles socialistes au congrès simultané de Saint-Étienne et de Roanne en automne 1882. Les marxistes et les antimarxistes, écrivait-il, ces deux espèces ont fait leur possible pour me gâcher le séjour en France. Lettre à Engels du 30 septembre 1882. Sur son désaccord avec les marxistes russes, voir la lettre de Marx à Vera Zasulich de 1881, à propos de l'avenir de la commune paysanne en Russie. Si Engels eut à cœur de léguer à la postérité cet avertissement lourd d'appréhension, il n'en a pas moins cédé à la tentation d'accorder au concept de marxisme, injustifiable par sa connotation idéologique, la sanction de son autorité. Gardien et continuateur d'un enseignement à l'élaboration duquel il n'avait contribué que pour une part modeste, et persuadé de réparer un tort en glorifiant le nom de l'ami vénéré, il a accepté le risque de favoriser la genèse d'une idéologie aux conséquences mystificatrices incalculables. Les déclarations d'Engels à cet égard sont formelles et ne laissent pas le moindre doute quant à la paternité des découvertes scientifiques qui sont toutes attribuées au seul Marx. De ces déclarations, la plus significative est la note insérée par Engels dans un écrit qui devait démontrer la continuité de la philosophie allemande en élevant son plus digne héritier, Karl Marx, au rang de fondateur de système. Ludwig Feuerbach est l'aboutissement de la philosophie classique allemande, 1888. C'est dans ce travail qu'Engels fit le geste solennel de baptiser la tendance ou la théorie issue de la dissolution de l'école hégélienne, tout en affirmant avoir pris une certaine part personnelle non seulement à la fondation, mais surtout à l'élaboration de la théorie. Engels précisait « Ce que j'y apporte, tout au plus, à l'exception de quelques branches spéciales, Marx aurait bien pu l'accomplir sans moi. Marx était un génie, nous autres, tout au plus, des talents. Sans lui, la théorie serait aujourd'hui bien loin d'être ce qu'elle est. C'est donc à juste titre qu'elle porte son nom. » La conclusion de cet écrit, où Marx se voit consacré à la fois héritier et fondateur d'une philosophie, ne saurait donc surprendre. Le mouvement ouvrier est l'héritier de la philosophie classique allemande. Ainsi, Engels avait bouclé la boucle et fait subir à la pensée marxienne la culbute fatale que son ami croyait avoir réussie en renversant la dialectique hégélienne. Aujourd'hui, à l'approche du premier centenaire de la mort de Marx, ses effets vont s'étaler au grand jour. Lorsqu'Engels s'est résigné à reprendre de la bouche de ses adversaires des formules telles que « marxiste » et « marxisme », ce fut avec l'intention de changer en titre de gloire une appellation inventée et honnie par des adversaires du communisme dit « autoritaire ». Il ne se doutait pas que ce geste de défi allait favoriser la naissance d'une nouvelle superstition ou idéologie en comparaison de laquelle toutes les anciennes ne sont qu'enfantillages. On peut suivre la genèse de la mythologie marxiste à partir des conflits au sein de l'Association internationale des travailleurs. Le désir de marquer l'adversaire et ses idées rendait les anti-autoritaires, l'anarchiste Bakounine à leur tête, assez inventifs pour créer des vocables tels que marxide, marxiste, marxisme, etc. Dans le cours des affrontements, les adeptes de Marx, surtout en France, prirent l'habitude de s'approprier une dénomination en guise d'étiquette politique, pour se distinguer des autres fractions du mouvement socialiste. Dès ce moment, il ne manquait plus que l'autorité d'Engels pour sanctionner un usage dont l'ambiguïté ne fut probablement pas perçue par ceux qui y eurent recours. Engels, il faut le souligner, fut dès l'abord franchement opposé à l'emploi abusif du nom de Marx, qui risquait d'aboutir à un nouveau culte onomastique. Il le savait mieux que quiconque. Cet abus verbal revenait à corrompre la signification véritable d'un enseignement compris d'emblée comme l'expression théorique d'un mouvement émancipateur de portée mondiale et nullement comme une doctrine fabriquée par un inventeur de génie à l'intention d'une nouvelle élite d'idéologues et de politiques. Mais sa résistance faiblit lorsqu'il dut se prononcer entre les multiples tendances du mouvement ouvrier en France, chacune des deux grandes fractions, possibilistes, etc., contre collectivistes, etc., ayant décidé en 1889 d'organiser son propre congrès ouvrier international. L'embarras d'Engels fut alors manifeste. Aussi chercha-t-il à conjurer le danger de la confusion et de la corruption verbale et idéologique en guillemettant les expressions injustifiables telles que marxiste et marxisme, ou en usant de formules telles que les soi-disant marxistes. Lorsque Paul Lafargue exprime son appréhension de voir son groupe passer pour une fraction parmi d'autres du mouvement ouvrier, Engels lui répond « Nous ne vous avons jamais appelé autrement que les soi-disant marxistes, et je ne saurais pas comment vous désigner autrement. Avez-vous un autre nom, tout aussi court? Dites-le, et nous vous l'appliquerons avec plaisir et dûment. » Engels à Lafargue, 11 mai 1889. Une fois engagé sur cette pente de la concession nominale, Engels ne pouvait plus reculer, et il lui fallut faire le dernier pas. Il s'y décida au moment où il crut assurer le triomphe des collectivistes dirigés par Guesde et Lafargue. Dans une lettre d'Engels, alors à Lafargue, du 11 juin 1889, il dit « Mais l'avantage acquis sur les anarchistes après 1873 s'est trouvé remis en question par leurs successeurs, et je n'avais donc pas le choix. Maintenant que nous sommes victorieux, nous avons prouvé au monde que presque tous les socialistes d'Europe sont marxistes. Ils se mordront les doigts de nous avoir donné ce nom, et ils resteront en carafe avec Heinemann pour les consoler. » Étrange coïncidence. C'est au même Heinemann, dans une lettre du 2 juillet 1881, que Marx avait déconseillé de se référer à son nom dans le programme du nouveau parti anglais. Voici ce qu'il dit. Dans les programmes de parti, il faut tout éviter qui laisse apparaître une dépendance directe par rapport à tels auteurs ou à tels livres. Craignant d'être un jour canonisé par des disciples indésirables, Nietzsche sut encore écrire son Ecce Homo. Pareille précaution ne semblait pas s'imposer dans le cas de Marx, qui n'a pourtant pu élaborer et livrer au public qu'une faible partie de l'œuvre en projet. Incontestablement, les matériaux imprimés et inédits qu'il a communiqués à la postérité se présentent comme une défense absolue de confondre sa personne et son nom avec la cause pour laquelle il avait combattu et avec l'enseignement pour lequel il se croyait mandaté par les masses anonymes du prolétariat moderne. Engels eût-il respecté cet interdit et, responsable de l'héritage littéraire de Marx, eût-il mis son veto à la canonisation de ce nom, il n'aurait pas été l'homme par qui le scandale est arrivé. En prenant sur lui de cautionner le fait accompli, Engels s'est acquis la gloire douteuse d'être le premier marxiste. L'héritier devint, en vérité, fondateur malgré lui. L'ironie de l'histoire, qui l'intriguait souvent, ne l'a pas épargné lorsque, à l'occasion de son 70e anniversaire, il prononça, rempli de regrets, ces mots prophétiques. « C'est mon sort de récolter la gloire et l'honneur semé par un plus grand que moi, Karl Marx. » Ainsi, dans l'histoire du marxisme, promu au rang de culte onomastique, le rôle d'Engels ne saurait être sous-estimé. L'aspect humain, trop humain, de la vénération qu'il éprouvait pour Marx mériterait sans doute une analyse particulière. Mais ce qui doit retenir ici notre attention, c'est plutôt l'effet du comportement d'Engels, aussi bien sur Marx lui-même que sur ses disciples lointains. Toujours prêt à agir en propagateur de la théorie de son ami, il a formulé maintes thèses ou interprétations que Marx ne pouvait d'évidence accepter sans réserve, mais qu'il a dû cautionner par son silence, sans doute pour marquer la solidarité durable de leurs efforts communs dans l'intérêt de la cause libératrice à laquelle ils ont voué leur vie. Rien ne laisse supposer qu'il se soit identifié à tout ce qu'Engels a écrit d'essentiel, quelque grande que fût l'admiration qu'il nourrissait pour le talent de son ami et collaborateur. Il lui est pourtant arrivé d'inverser les rôles et de se considérer comme disciple de celui-ci. Pour peu que l'on admette ce rôle, certes involontaire, qu'Engels a joué dans la fondation de l'idéologie marxiste, on saisira la raison pour laquelle il a rempli sa tâche d'éditeur des manuscrits de Marx d'une manière qui n'est pas sans prêter le flanc à la critique. Et aussi, pourquoi il s'est complu à attribuer à son ami des découvertes scientifiques extraordinaires sans juger nécessaire de s'en tenir au propre témoignage de l'intéressé. Ces mérites d'éditeur de Marx ne doivent pas faire oublier qu'en retraçant la formation et l'évolution de la pensée marxienne, il a négligé d'importants écrits, fussent-ils inachevés, du défunt. Les cahiers sur la philosophie épicurienne, la critique de la philosophie politique de Hegel, l'ébauche d'une critique de l'économie politique et la première rédaction de l'économie, pour comprendre l'itinéraire intellectuel de Marx. Engels a manifestement ignoré tous ses travaux, pour des raisons qu'il reste à élucider. Aussi le lecteur ordinaire, et non seulement le spécialiste ou l'idéologue d'école, se trouve-t-il placé devant des problèmes d'interprétation dont la présence au monde où nous vivons et agissons est trop évidente pour nous laisser indifférents. En ces temps où idéologie, mécanisation et manipulation des consciences s'allient à la violence brute pour maintenir l'humanité dans son état d'animalité politique digne des sociétés préhistoriques.